Voilà, je vais parler en bas ce matin, ça va ? La terre est basse, hein ? Voilà, donc bah écoutez, merci Seigneur, ça fait déjà quelque temps, cette pensée travaille dans mon cœur. Et j'aimerais qu'on mette cette diapo, vous l'avez là ? Qui a fait cette citation ? Vous arrivez à lire là, sur la diapo ? Ça vous inspire ? Oui ? Vous connaissez ? Oui ? Qui a dit ça ? C'est tiré d'une parole d'un personnage biblique. Ah bon, ben on fait peut-être bien d'y venir. Hein, Joseph, et je vous ai aidé parce qu'en fait j'ai mis des pyramides. J'ai mis des pyramides pour vous aider. J'ai dit, bon, là ça devrait être certainement... voilà, c'est tiré d'un verset qu'on va prendre le temps de lire. On va... Alors, en fait, il n'y a pas que Joseph hein, qui a parlé de cette mesure-là. Ah, oh, merci. C'est à votre santé, hein, je suis désolé. J'ai la bouche un peu sèche. Oh, elle est froide. Avant d'aller plus loin, j'aimerais, frères et sœurs, vous donner un témoignage. En 1948, le pasteur Richard Wurmbrand est arrêté pour sa foi par les communistes de son pays en Roumanie. Il va passer 14 ans dans des prisons de haute sécurité. Les gardiens le torturent physiquement, psychologiquement, lui répétant sans cesse « Dieu est mort !»« Personne ne se souvient de toi, tu ne sortiras jamais !» Privé de Bible, de papier, de crayon, alors il a appris le code Morse. Des messages codés en frappant contre les murs de sa cellule. À travers les murs de pierre, il commence à prêcher l'évangile aux autres prisonniers politiques et même à ses propres gardiens. Des dizaines de personnes ont trouvé la foi et l'espérance grâce à ces petits coups frappés contre la roche. Libéré par miracle en 1964, il a fondé l'organisation internationale La Voix des Martyrs, qui soutient encore aujourd'hui les chrétiens persécutés dans le monde entier. Le diable voulait l'écraser en prison, mais Dieu a utilisé cette pression pour lui de faire un diamant spirituel qui peut briller encore au jour d'aujourd'hui dans le monde. Amen. C'est beau, hein ? Mais qui voudrait passer 14 ans en prison pour ça ? Certainement pas fou. Alors on va reprendre le texte de Genèse. Vous avez parlé de Joseph et vous faites bien. C'est bon de reprendre la vie de Joseph et je suis encore émerveillé de cette illustration, cette image, cet enseignement, ce vécu, hein, c'est pas des fables, mais ce vécu de Joseph est très inspirant. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va en prendre une partie. Alors il s'avère que c'est sur la fin du livre de Genèse. Du livre de Genèse, il faut savoir que Jacob donc a eu les 12 tribus. Le père va mourir. Ils sont allés pour l'enterrer. Il y avait une parole sur ça, mais je ne vais pas y revenir. Ça serait pas le sujet ce matin. Mais en fait, ils reviennent donc après les obsèques du papa Jacob. Et puis voilà, Joseph se retrouve avec ses frères. Vous savez que certainement pour les connaisseurs de la parole de Dieu. Joseph s'était retrouvé en Égypte et il est devenu gouverneur d'Égypte, hein, par la grâce de Dieu. Il a ouvert les réserves du pays. Dieu s'est servi de lui un temps donné. Et puis, ses frères qui étaient appauvris, il y avait une grande sécheresse qui était là. Et les frères étaient venus et avaient dû accepter de venir en Égypte pour récolter de l'aide, de l'assistance. Et puis, ils ne savaient pas que le gouverneur était leur frère, celui qu'ils avaient jeté dans la citerne, vous vous souvenez ? Donc, sa vie semble descendre un peu de mal en pis et semble tomber plus bas que terre, plus, moins que rien. Et il s'avère que Dieu veille sur tout cela. Et le contexte, le texte qu'on va lire maintenant, c'est la fin de ce livre de la Genèse, mais qui vous permet de comprendre ce qui s'est passé. Parce que Joseph se révèle à ses frères. Ses frères doivent comprendre, mais ils ne comprennent pas tout. Il y a des choses qui leur échappent. Verset 15, « Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal qu'on lui a fait, et ils dirent à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Alors pour les frères de Joseph, il faut quand même dire que le papa, tant qu'il était là, pouvait encore peut-être changer les intentions de vengeance. Mais là, étant partis, ils se sont dit, on va se retrouver face à Joseph, et nous qui l'avions jeté il y a quelques temps auparavant, quelques années avant, c'est-à-dire il va nous attraper, il va ne faire qu'une bouchée de nous. Alors le papa est mort, et puis voilà, ils vont faire surgir cette parole. Et Joseph avait déjà pleuré en voyant ses frères. Il était déjà ému. Et travailler dans son cœur. Imaginez. Il s'est pas fait connaître de suite, mais au bout d'un certain temps, et puis les frères sont tombés sur leur face de réaliser que le petit, il l'avait déjà mis de côté dans cette citerne, l'avait jeté. Et puis en fait, Dieu a, mais oui, il le dit bien, Dieu a changé le mal en bien. Amen. Non seulement pour Joseph, pour la famille, mais pour toute la nation. Et tout ce que Dieu a fait, c'est extraordinaire. Frères et sœurs, je crois que ça nous dépasse. Ça nous dépasse même dans tout ce qu'on pourrait voir, prévoir ou calculer, je ne sais pas. Mais le verset, je vous le rementionne, au verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Vous imaginez peut-être qu'on touche du doigt des choses, mais reprenez ces textes. C'est toujours très enrichissant de parler, de vivre, de relire, méditer la vie de Joseph. J'en ai souvent pleuré. Joseph a pu vivre des difficultés très grosses devant lui, mais en fait, faut comprendre que l'amour de Dieu va le transporter pour passer au travers de tout cela. Des rancœurs familiales, des problèmes avec ses frères, des problèmes dans son cœur, des choses qu'il vivait. Et il faut savoir que Joseph, à peu près vers 17 ans, va recevoir ce songe dans son cœur. À 17 ans, vous rendez compte ? Et c'est très jeune. Et une fois de plus, le focus est mis vraiment très jeune. Dieu le met à part et lui raconte ce qu'il a pu vivre. Oui, il y avait ma gerbe qui était là. Mais les autres gerbes, ça semblait être vous qui se prosterner devant la mienne. Oh, tu vas où, toi ? Maintenant, on te doit la révérence, toi. T'es le petit, t'es le plus jeune. Et maintenant, on doit te donner la révérence. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Eh oui, il y a des contextes de famille, des fois. C'est chaud, hein ? C'est chaud, hein ? Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, il faut que vraiment Dieu travaille le cœur de Joseph. Joseph, c'est pas parce qu'il y a un songe qu'il est arrivé. C'est pas parce que Dieu le prédestine à quelque chose que c'est fini. Mais il devra apprendre, il devra cheminer, il devra évoluer tout en descendant parfois et se demandant ce que Dieu fera de lui. Et Dieu fera son œuvre. Et c'est des années après, en fait, des années après, qu'il va pouvoir réaliser et dire, vous aviez médité ça, mais Dieu, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il l'a transformé en bien. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Imaginez qu'on puisse peut-être venir ou revenir au Dieu de la parole de Dieu, ce Dieu vivant et vrai qui nous amène à considérer qu'il est capable de tout. Il a le contrôle sur tout. On penserait pouvoir arranger ou finir ou prendre la main ou reprendre la main, mais lui il gère, il fait ce qu'il veut. Et c'est bon pour nous de nous rappeler que à cause de cet amour-là, eh bien il dira ses paroles. Les paroles sont pesées, croyez-moi. Elles sont pesées. Et sans l'amour de Dieu, on pourrait dire aussi qu'il n'aurait pas pu s'en sortir. L'amour de Dieu est passé dans sa vie. Ça a transformé, frères et sœurs, ses façons de penser, ses façons de parler. Ça a transformé même son comportement. Et c'est lui qui va rassurer ses frères, qui l'avait jeté. Et s'il pouvait mourir, c'était fait à ce moment-là. Mais c'est lui qui va rassurer ses frères. Et il va pourvoir à leurs besoins. Eh ben, avec ça, voyez-vous, merci Seigneur. Eh oui, amen. Et ces paroles résonneront dans l'histoire biblique. Eh bien, n'est-ce pas ce que Dieu a fait aussi? Changer le mal en bien. Depuis la chute originelle, Genèse 3.15, je vous passe les citations, mais on voit que Dieu va changer. Adam et Ève ont succombé, mais malgré tout, Dieu travaille dès le commencement à pouvoir faire des choses merveilleuses. Donc Joseph, par ses bonnes dispositions, va surmonter le mal par le bien. C'est aussi important ça à dire. Hein. C'est pas que Dieu, Seigneur, on te demande de changer le mal en bien. Hein. Oui, mais il faut changer aussi nos dispositions de cœur. Il faut qu'on surmonte le mal. Le mal se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Hein? Donc c'est au sortir de nos maisons, sortir de nos vies, de notre quotidien. Et tout est là, en fait. Mais nous avons vraiment le secours de Dieu. Amen. Alors j'aimerais attirer votre attention. Parce que nous allons regarder, bien que Joseph, c'est un type de Christ. C'est un type de Christ, et ses frères, eh bien, ressemblent aussi le peuple juif qui vont livrer, crucifier Jésus. On retrouve un peu les mêmes codes. La chair est faible. Mais nous allons voir des personnages et des contextes qui nous rappellera cette vérité biblique qu'on peut soulever ce matin, que Dieu seul peut changer. Dieu seul peut changer. À chaque fois, j'ai pu constater. Eh bien, pour chaque personnage qui ont vécu cette vérité, ce contexte, ça a toujours été un contexte de pression. Vous aimez la pression? Ouais, j'en vois là, qui se lèche les babines. Non, c'est pas ça qu'on parle. Non. Une boisson bien fraîche. Non, c'est pas ça. De côté, mettez ça de côté, les frères. Mais la pression, c'est celle qui nous éprouve. Et moi, le premier, on l'aime pas. Hein. On l'aime pas. Alors, quelques exemples qu'on pourrait nommer à bâton rompu avant de prendre des citations d'autres textes. Je pense que cette vérité soulignée, soulevée. Pour Noé, c'est un peu pareil. Dieu décide d'exterminer les hommes parce que les hommes étaient méchants. Il décide d'envoyer un déluge pour détruire l'humanité. Mais Dieu sait souvent que Noé, il sait que Noé est juste et intègre et il change le mal en bien en décidant de sauver Noé, sa famille. Les animaux, un mâle, une femelle, pour reconstruire un monde nouveau. On pourrait dire, Dieu change le mal en bien. Et grâce à ça, il reconstruit une humanité. Merci Seigneur. Rappelez-vous de Ruth et Naomi. Dieu change le mal en bien. Ils sont partis, ils ont tout perdu. Enfin, la famille a tout perdu et ils sont revenus... Voilà, après bien des dommages, après des périples, après des souffrances. Et quand vous voyez Boaz qui rentre en ligne de compte, on se dit, mais waouh, un type de Christ encore qui nous définit véritablement et grandement l'œuvre de Jésus. Amen. Moïse aussi a dû prier et crier à Dieu. Parce que, en fait, à cause du peuple qui était toujours tourné au mal, le peuple était rebelle. Et même, il y a quelque chose qui est rentré dans les usages, c'est de dire « le peuple courait ». C'est quoi ça? En fait, ils n'arrivaient plus à fléchir devant Dieu. Le peuple courait, c'est était comme avec un cou rallongé, comme des girafes. Mais le peuple courait, et par l'intercession de Moïse, Dieu a changé de mal en bien. Oui, il a fait grâce, parce que Dieu répond à la prière. Amen. Ça va, vous êtes là? Amen. Hein. Donc Pharaon veut exterminer tous les enfants mâles. Dieu change le mal en bien, prévoit un plan de sauvetage. Oui, parce que en fait, il veut sauver le bébé Moïse, le futur libérateur, un instrument pour un temps donné. Et dans le plan de Dieu, ça semblait être fini, une génération qui va être balayée, gommée. Mais Dieu va en tirer un pour relever et libérer le peuple. C'est beau, hein? Esther. Vous vous rappelez? Haman veut exterminer le peuple juif. Dieu change le mal en bien en ayant placé Esther comme reine. Elle trouve encore grâce auprès du roi et Dieu se sert d'elle. L'apôtre Paul aussi, on pourrait mentionner, lui-même qui a connu bien des persécutions, toutes sortes de choses, et puis au travers de tout cela, et malgré tout, Dieu a fait grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, on parle de pression parce que, au fait, la pression nous permet de voir comme la formation du diamant, hein, comme des chercheurs disent, hein, le diamant en fait va se faire avec beaucoup de pression, hein, sous terre, et puis il y a des grosses forces destructrices, une grosse chaleur étouffante, une grosse pression, je vous passe les chiffres, mais en fait qui permet de transformer, et puis avec du temps, et le diamant va aussi prendre forme comme cela. Cette image nous montre que parfois nous sommes confrontés à la pression. Et on ne sait pas toujours, mais on risquerait de céder, n'est-ce pas ? On risquerait de céder parfois à toutes sortes de pressions. Nous avons des moments difficiles à surmonter. Et Dieu compte sur toi. Et nous avons des grandes souffrances qui pèsent sur nous. Et Dieu veut te faire du bien, Dieu veut t'aider. La pression, c'est que ça risquerait de paraître comme un moment où Dieu pourrait nous abandonner. Mais on sait qu'il ne peut pas nous abandonner. Si nous demeurons dans la foi, si nous demeurons dans sa parole, si nous demeurons dans son amour, nous savons qu'il a aussi les moyens de faire son œuvre. Amen. Eh bien, il utilise les choses, mais il est aussi en train de nous modeler, nous façonner, nous transformer. Et puis, il est capable de tirer les choses autrement. Le résultat peut en être totalement inversé. Merci Seigneur. Facile à dire peut-être, mais quelqu'un a dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Alors prenons cette vérité pour la comprendre, Bible en main. Il y a deux points que j'aimerais soulever avec des exemples dans ces points-là. C'est qu'il y a tout d'abord les pressions que Dieu utilise. Ah ben heureusement qu'il vient à notre aide. Hein, les pressions que Dieu utilise. Et puis, il y a aussi, j'ai constaté, alors, bon, permettez ces quelques recherches, hein, c'est un canevas, de toute façon, vous pourrez retrouver dans vos Bibles et en trouver certainement d'autres exemples, mais voir, et ça pourrait être un bon exercice pour cette semaine, les pressions que Dieu utilise, et puis aussi les pressions qui risquent de transformer le bien en mal. Là, j'ai bien dit dans ce sens-là, le bien en mal. Donc c'est plutôt à titre d'alerte. Tout d'abord, les pressions que Dieu utilise. Du temps de Joseph, ça exprime exactement la pensée que dans ces temps, ces paroles qui ont résonné nous montrent que Dieu a un plan de ce qui s'est fait, mais de ce qui vient encore. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Nous, on est. Mais Dieu n'est pas pris au dépourvu. Et Dieu voit loin, plus loin, hein? Car Dieu a tant aimé le monde, on en parlait vendredi soir, le monde entier, Dieu a tant aimé le monde, il aime toute créature, il est capable pour un peuple, pour une église, pour une ville, pour le monde entier est capable de faire son œuvre. Puisqu'il nous paraîtrait injuste pour nous, Dieu est capable encore d'y mettre sa touche. Et on ne peut pas dire que c'est fini. Parce que bon, comme les hommes ont pu un peu le dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et d'une certaine manière, Dieu nous donne plus que de l'espoir, nous donne l'espérance, et nous montre qu'en fait, il maîtrise toutes choses. Ça vous va de perdre le contrôle et que Dieu gagne le contrôle ? Ah oui, parce qu'on pense contrôler, mais on ne contrôle rien. Hein. Ou contrôler même pas le souffle de vie. Vous imaginez ? Mince alors ! Ben oui, c'est sûr, on est bénéficiaire, on contrôle rien, et on réalise que on est soumis, et puis vaut mieux soumettre à Dieu, vaut mieux soumettre à sa grâce, vaut mieux soumettre à sa bonté, et puis c'est Joseph. Certainement qu'il a rongé son frein, peut-être qu'il s'est dit, mais je comprends pas, j'ai eu beau à dire à mes frères, à mon père, ils ont rien compris, ils m'ont jeté dans la citerne, et je comprends pas, j'aurais peut-être dû leur dire d'une autre manière, j'aurais dû peut-être exceller, peut-être nuancer, peut-être, je sais pas, mais t'as fini dans la citerne, c'est pas possible. Puis il arrive chez Potiphar, non mais, oh ça va, t'as les idées bien placées toi. Et puis, il est pris, accusé à tort, etc., etc. Et tout semble, en fait, aller de mal en pis, en décadence. Mais il y a des textes. N'oubliez pas Joseph. Dieu était avec Joseph. Dieu était avec Joseph. Vous retrouverez ça dans les textes. Et Dieu chemine avec lui, c'est extraordinaire. Et Dieu ne se contente pas d'annuler le mal ou l'enlever. Pour nous, ça serait si simple qu'il l'enlève et puis voilà. Mais il le transforme pour en faire jaillir un bien supérieur. Ce texte avec Joseph, frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que c'est quand même un contexte qui démontre que Dieu agit dans les familles pour les rapprocher. Peut-être à réfléchir, à méditer aussi. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la famille. Oui, mais on ne choisit pas sa famille. Mais néanmoins, Joseph a été méprisé. Et nous pouvons l'être, frères et sœurs, nous pouvons l'être. Mais Dieu agit. Il n'a pas dit, bon, maintenant il y a eux et il y a toi. Et puis maintenant, toi, tu es à moi. Et eux, laisse-les aller. Non, ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas ça. Dieu voit plus grand encore. Il faut nous réajuster encore avec sa grâce. Du temps de Néhémie, donc les pressions que Dieu utilise, vous avez ce verset dans Néhémie 13, 2. Notre Dieu avait changé la malédiction en bénédiction. Vous pourrez reprendre, méditer peut-être là-dessus. Ses propos éprouvés par toutes sortes d'épreuves, ça doit retenir notre attention. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi ils en sont arrivés là? Rappelez-vous du temps de Néhémie. La reconstruction de Jérusalem s'est faite sous une harcelante pression politique et militaire. C'était encore, s'ils avaient déjà à faire les travaux, c'est déjà quelque chose de faire des travaux, mais encore, il y avait des pressions qui étaient là et tout le temps qui les titillaient, les empêchaient, et puis ils pouvaient pas, et il fallait même qu'ils travaillent une arme à la main et une truelle à l'autre, etc. Et il fallait qu'ils travaillent dans des conditions, mais c'était déplorable quand même de voir ça. On pouvait pas venir les aider. Mais non. Et puis, notre Dieu, ils diront, avait changé la malédiction en bénédiction. Amen. Et c'est très intéressant, c'est très riche. Même s'il y a eu cette pression, n'a fait que de conforter, n'a fait que de permettre et en éclat et en gloire que Dieu a vraiment tout dans les mains. Peut-être que c'est dur, c'est éprouvant, ça nous fatigue, c'est difficile, mais au travers de cela, Dieu va faire son œuvre. Et puis, il y avait les pressions politiques, militaires, et la part aussi des gouverneurs voisins comme Sambala, Tobija. Et ils vont multiplier les complots, les menaces d'attaque, les rumeurs de trahison, saboter. Oui, pour eux, c'était de les arrêter, saboter l'œuvre et les mener au découragement. Voilà, comme ça on a gagné. Bah, tu fais ce que tu veux, hein, mais c'est l'œuvre de Dieu là. En fait, la muraille qu'on fait là, c'est la muraille de l'Éternel. Les ressources qu'on a, c'est les ressources de l'Éternel. Ceux qui travaillent là, c'est ceux qui appartiennent à l'Éternel. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu t'appelles? Sambala? Tobija? Et vous pouvez rien. Et il faut réajuster les violons. Et il faut comprendre que, en fait, dans cette période-là, cela ne favorisera que de voir, et avec gloire et avec éclat, que Dieu confirme toujours sa parole. C'est beau, hein? C'est beau, et vaut mieux être dans le bon camp, quand même, hein? Vaut mieux être dans le bon camp, mais voyez que Dieu a changé la malédiction, parce qu'en fait, il y avait comme un venin pour maudire, un venin pour salir. Il y avait comme des paroles tout le temps négatives. Mais ça ne va pas empêcher Dieu de faire son œuvre. Ce qu'il en résultera et reviendra pour eux, bah, ça les regarde. Hein. Mais Dieu fera son œuvre. Et Dieu avait changé la malédiction en bénédiction. C'est bon quand on est béni. Hein. Ah oui, c'est ça qu'on a besoin. Mais vous savez que par le plus petit membre qu'on a, c'est la langue. Et la langue, il faudrait qu'elle soit crucifiée. Amen. Non, amen, vous dites amen à ça? Eh, attention, vous dites amen là. Hein. En plein cœur de cette hostilité, Néhémie utilise cette citation pour rappeler, comme par le passé, que Dieu, tout comme eh bien, de tous les complots qui pouvaient être faits de leur ennemi pour détruire, décourager, eh bien, sont systématiquement retournés par Dieu. Et Dieu va fortifier son peuple pour mener le projet à sa réussite vers la bénédiction. C'est incroyable. Hein, c'est Dieu qui a le contrôle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut faire tout ce qu'on veut. On pourrait s'y prendre de la manière qu'on voudrait. Quand on voit Tobija Sambala, bah oui, on pourrait faire, on pourrait essayer de ressembler à eux parfois. Mais non, on est dans l'armée de l'Église, de Jésus. Amen. Comme du temps de Néhémie, mais nous rappelle-t-il pas aussi ce que Jésus avait dit, je bâtirai mon Église. Et la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il y a des enjeux qui sont des enjeux spirituels. On n'a pas la vue sur ce que Jésus voit, mais lui, c'est lui qui bâtit l'Église. C'est lui le grand chef, la tête de l'Église. Et c'est bon pour nous de réaliser que ce contexte démontre que tout ce qu'on peut faire avec sa grâce et faiblement qui nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons faire, si ce n'est que de dépendre de lui et de crier à lui pour qu'il nous qualifie, nous bénisse. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des choses faibles que Dieu n'est pas avec nous. Ce n'est pas parce que nous sommes limités que Dieu n'est pas tout puissant. Il ne faut pas tout inverser. Eh oui, il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas parce que nous sommes dans des limites qui nous sont humaines que Dieu n'a pas le contrôle sur l'Église. Et ça, c'est bon à réaliser, frères et sœurs. C'est Matthieu 16, 18, quand il parle de cela, « Je bâtirai mon Église ». Croyez que Jésus est reparti au ciel et puis il nous dit « Tu fais ce que tu peux, tu fais ce que tu veux. Bon, quand je reviendrai, on refera le point. » Non, il veille sur son Église. Et aujourd'hui encore, il veille sur son Église et Dieu merci pour sa grâce. Alors c'est sûr, Jésus, c'est la tête. Oui, alors bien sûr, le Seigneur met en place des ministères. Mais ça ne remplace pas ce que Jésus veut faire. Par contre, c'est sûr, nous devons fonctionner dans un sens qui est le sien. C'est ce que lui a mis en place. Et c'est vrai que les pressions que Dieu maîtrise, merci Seigneur, les pressions du monde des ténèbres contre l'Église, vous imaginez aujourd'hui, ça existe. On n'est plus dans le pays des bisounours, on réalise qu'il y a des pressions spirituelles. Il y a des choses immorales, scandaleuses, honteuses qui veulent pousser, renverser. Mais ça, c'est Jésus qui s'est engagé. Et nous, on ne pourra pas nous relever le défi par nous-mêmes, mais en dépendant de lui. Amen. Ça va? Ces mêmes paroles, en fait, quand elles sont mentionnées par Néhémie, elles font aussi allusion à ce qui avait été dit du temps de Balaam. En fait, la citation de Néhémie fait écho à cette histoire de Balaam qu'on retrouve dans Nombre 22-24. Balak voulait se servir de Balaam pour qu'il maudisse le peuple de Dieu, mais Dieu force la bouche de ce dernier à prononcer des bénédictions. Il voulait l'amener à voir le peuple de Dieu dans la plaine. Il dit, voilà, prononce maintenant des malédictions sur eux, vas-y, vas-y, vas-y. Et il donne des bénédictions. Alors il dit, on va aller à un autre endroit, vas-y, tu le vois, maintenant prononce des malédictions. Et il prononce des bénédictions. Ah, il est en colère, il n'est pas d'accord. Il dit non, c'est pas pour ça, je t'ai payé. Eh oui. Mais Dieu est capable aussi de reprendre la démence de ce prophète. Eh oui. Et nous comprenons que ce contexte démontre que rien ni personne ne peut changer la vie de Dieu. Ça, personne ne peut changer la vie de Dieu. Dieu, dans sa préscience, et ce qu'il veut, c'est ton bien. Mais s'il veut, excusez-moi, je sais de quoi je vous parle, s'il veut qu'on passe par des larmes pour pouvoir changer le mal en bien, nous avons semé avec larmes, nous avons moissonné avec chant d'allégresse. Là, par contre, qui est volontaire de semer avec des larmes? Un petit peu, ouais, bon. Alléluia quand même, On compte sur vous, frères et sœurs, Amen. Mais c'est pas parce qu'on va recevoir, c'est parce que Seigneur, tu vas faire ta volonté. Et c'est ça qu'on a besoin. Nous devons comprendre que même s'il n'était pas au clair, Balaam, n'était pas non plus au clair, parce qu'il y avait des choses, voilà, c'est tranché d'office. Il y a des choses, on touche pas au peuple de Dieu. Et c'est sûr, nous comprenons que c'est pas en prenant un angle différent, une approche personnelle, une approche sous nos commentaires, que ça va changer le regard de Dieu. C'est un terrain glissant, voire dangereux, de chercher à faire comprendre à Dieu ce qu'il doit comprendre. Moi, je sais pas, hein, c'est à vous de voir. Et attention, frères et sœurs, attention, et là je vais ouvrir le deuxième point, attention à ceux qui risquent de vous détourner de votre but honorable. Il y a des choses bien, mais il faut surmonter le mal par le bien. Et là où on pourrait nous emmener sur un terrain glissant, attention, ouvre tes yeux, regarde, fais attention, prends la vigilance pour repère. Oui, de peut-être trancher, tu vas voir un avis tranché, qu'est-ce que Dieu pense? Relis les proverbes, tu vas voir. Dans les proverbes, tu vois tout de suite le bien et le mal. Et parfois, c'est une parole vraiment qui va trancher entre jointure et moelle. Et merci, Seigneur. Alors, les pressions qui risquent de transformer le bien en mal. Là, on est à l'envers. Parce que, et il faut quand même le dire. Il faut quand même prêcher. C'est pas l'évangile de Rose. Mais il faut quand même dire on est dans un monde où on marche sur la tête. Bon, il y en a, ils savent marcher sur les mains. Mais là, on marche sur la tête. Des fois, mais il faut le dire, il faut qu'on enseigne, qu'on rappelle ces choses-là. Il faut qu'on retrouve de la lucidité, de la clairvoyance, de la vigilance. Il faut qu'on puisse prendre garde, frères et sœurs. Non ? Allez, priez pour moi. Hein. Du temps du roi Saül, il y a eu des pressions, là. Être choisi de Dieu ne nous exempte pas de bien agir. Hein ? Est-ce que nous voulons le paraître ? Nous avons la peur des hommes. Paul l'avait un peu rappelé comme aux Galates aussi. Le contexte du roi Saül nous démontre que les pressions risquent de nous déstabiliser et nous amener à mal agir. Vous vous souvenez certainement le roi Saül qui décida de prendre la place du prophète et d'offrir à Dieu son propre sacrifice. Lorsque Samuel arriva, il a tremblé, hein ? Il arrive un petit peu plus tard que prévu. Il va exiger une explication. Et Saül va répondre piteusement : « J'ai vu les Philistins assemblés, je me suis senti obligé d'eux. » 1 Samuel 13, 12, il avait en fait succombé aux pressions. Hey « Hé Samuel, il n'est pas là, vas-y, offre le sacrifice. Vas-y, toi, t'es quand même le roi, vas-y, t'as le droit de faire ce que tu veux. » Et Samuel va lui dire, tu as agi en insensé. Maintenant, sache que ton règne ne durera pas. La volonté divine doit s'inscrire dans une manière qui plaît à Dieu. Pas nos critères à nous. Ne courez pas le risque d'avoir résisté à Dieu. Ne courez pas le risque d'avoir couru plus vite que Dieu. Nous avons besoin de rappeler ces textes. Mais du temps du roi Saül, il faut dire, il a tout perdu. Il a tout perdu. Si vous reprenez le texte, les pressions qui risquent de transformer le bien en mal. Tout s'arrête là. Et quand vous voyez même Salomon, il faut le dire, il y a des proverbes, il y a des paroles, et que Dieu nous fasse grâce. Parce que Salomon va donner des paroles si claires, si merveilleuses, mais quand on voit la fin de sa vie... Seigneur. Donc l'homme qui avait la sagesse venant de Dieu n'a pas agi avec cette sagesse, alors que Dieu nous garde. Hein. Les pressions qui risquent de transformer le bien en mal. Ça vous dérange pas, non, que je parle sur ça ? Non ? De toute façon, j'ai bientôt fini. Hein. Si vous avez des tomates, c'est bon. Je les mange. Il y a du temps de Job, l'épreuve est grande quand même à gérer. La maladie est grande. On est dépassé devant cette détresse qui a bousculé, mais aussi il a perdu ses enfants. Puis sa femme, bah, qui restait avec lui, ne semblait plus être vraiment là. Hein. Et justement, c'est un peu sur ça, j'aimerais un peu m'arrêter. Souvent, la femme de Lot, on l'incrimine sévèrement. Et de ce qu'elle a pu dire dans Job 2,9, il dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Alors ce texte, il a fait couler de l'encre. Hein. J'en rajoute un peu ce matin. Mais en fait, ce terme, ça serait le mot « barak » qui signifie littéralement « bénir ». Si on traduisait le verset mot à mot, ça pourrait dire « Bénis Dieu et meurs ». Et il faut savoir que pour les copistes antiques, transcrivaient voilà, ces manuscrits, et l'idée même d'écrire côte à côte les mots « maudire » et « Dieu », il y avait, hein, était comme un blasphème intolérable. Donc ils ont replacé le mot « maudire » par un contexte « bénir », tout en sachant que le lecteur comprendrait le sens inversé au travers de ce texte, bien entendu. Et il y a une autre lecture, j'ai trouvé un commentaire qui est intéressant, qui amène peut-être à réfléchir aussi, parce qu'il y a une subtilité technique du texte. Je ne dis pas que le texte n'est pas inspiré, j'en suis pas là, croyez-moi. Mais en fait, d'après les recherches qui sont faites, la femme de Job ne l'invite pas à insulter Dieu par méchanceté, mais à couper les ponts d'une certaine manière, à dire dans cette perspective de ce que tu es en train de vivre, en fait, dis au revoir à Dieu, tire ta révérence et meurs, puisqu'il n'y a plus d'espoir. Donc elle se dit, mais voilà, on est au bout là maintenant. Et donc, cette parole qu'elle est en train de dire, mais il faut aussi quand même comprendre qu'elle partage sa souffrance, parce que ses enfants, c'est elle qui les a portés, qui les a mis au monde. Donc, elle est là et elle souffre intensément, si ce n'est que Job, il a en plus la maladie. C'est un cri de détresse, pas de méchanceté. C'est un trait de capitulation devant le mal qu'on ne maîtrise plus. Et puis on se dit, mais tout le bien que j'avais, Seigneur, je pense qu'il faudrait toujours parler comme ça, ça semble être maintenant se terminer en mal. Mais Seigneur, je m'en remets à toi parce que je ne sais pas ce que tu es capable de faire. Je pense que le raisonnement là est peut-être le plus sensé qui soit. Ne dites jamais que c'est terminé, alors que Dieu peut encore tout faire. Alors oui, c'est vrai que la pression, on revient à la pression. La pression de tout ce qu'on peut vivre, subir et porter, essayer de s'en dépêtrer, qui est là et nous amènerait peut-être à succomber, mais que Dieu nous garde. Amen. Il y a ce désespoir qui est là. Et il la reprend, il dit, mais tu parles comme une femme insensée, quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Ah, mais Job, il a vraiment déraillé là. Non? Au moins, c'est dit. Dieu sait. Et croyez que Dieu va vous faire du mal et vous laisser dans le mal. Croyez que Dieu va vous laisser souffrir. Croyez que Dieu aime à vous voir pleurer. Et non, vous ne trompez pas, frères et sœurs. Vous ne trompez pas. Regardez bien, parce que c'est pas la fin des choses que Dieu veut. Et nous voyons que ça démontre toujours la fidélité de Dieu. Même la bénédiction semble, lorsqu'elle nous échappe, comme une malédiction apparente. La fin de l'histoire de Job, rappelez-vous, nous démontre bien le contraire. Dieu change le mal en bien. Pourtant, il était dedans. Il était dedans, mais Dieu a fait grâce. Je terminerai par l'exemple de Jésus. Je ne peux pas le contourner. C'est merveilleux. Je pense, au-delà de ce qu'on peut voir, sonder un peu dans les textes, que l'exemple de Jésus est l'exemple le plus sublime qui soit. Le plus sublime qui soit, parce que Jésus va devoir mourir à la croix. Certains ont pu vivre des souffrances, des problèmes, des pressions, jusqu'à un temps où Dieu a pu aussi faire grâce à leur manière, parce qu'ils ont aussi demeuré, etc., ils ont veillé. Mais là, l'exemple de Jésus, il faut se rappeler, frères et sœurs aussi, il a été tenté au début de son ministère, et à la fin, il subit encore des pressions à Gethsémané. Et il se tient là dans l'agonie même. Et sa sueur se transforme en grumeaux de sang. C'est incroyable de voir le début et puis au fond, dans son ministère même, dans tout ce que Jésus a pu vivre, il était toujours pour aller de lieu en lieu, pour guérir, pour faire du bien, nous dit la parole de Dieu. Mais derrière, il y avait les religieux, il y avait les opposants qui étaient là et c'était dur, il y avait une pression permanente. Et puis, ils semblent avoir pris la main sur lui. Ils vont amener même le pouvoir en place romain pour l'amener à décider que Pilate s'en lave les mains et de dire, voilà, maintenant, on vous le livre, vous le crucifiez. Et il fallait faire vite, la Pâque approchait, donc il voulait lui rompre les jambes même pour l'asphyxier et l'empêcher d'avoir trop de vie encore à ce moment-là. Il semble avoir pris l'avantage sur Jésus. Mince, Jésus les dénonçait de leur arrogance, de leur vanité, de leur petitesse. Et ils semblaient s'en tirer. Parfois, ils ont voulu même le pousser d'une falaise, dire « Ah, lui, c'est bon, c'est terminé, lui !» Et il va passer au milieu d'eux, il part. Et on envoie des huissiers pour dire « On va l'arrêter !» Oui, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme, il repart, c'est merveilleux. Eux-mêmes sont touchés, bouleversés de ses paroles. Et que d'exemples comme cela. Mais là, la crucifixion, Jésus, il s'est fait arrêter. Ils l'ont arrêté, jugé, mal jugé. Et puis il a été crucifié. Ah ben là, mince. Et on se dirait, bah tu vois, c'est toujours pareil. Voilà. C'est toujours le mal qui l'emporte. Voilà. Tu vois, c'est fini. Voilà, c'est toujours les ténèbres, c'est toujours la méchanceté, l'opposition, les addictions, tout le mal. Toujours, ça finit toujours comme ça. Voilà, ça finit toujours mal. Sauf que derrière, Dieu l'a ressuscité des morts. Alléluia. Ah, merci Seigneur pour sa victoire. Ah oui. Oui, c'est vrai que les auteurs du Nouveau Testament, l'acte suprême de Jésus où le mal est changé en bien, la malédiction en bénédiction, c'est la crucifixion, c'est le point de rassemblement, frères et sœurs. À la croix, Jésus change le mal en bien, la défaite en victoire. Et les sentiments qui étaient en Jésus sont appelés à vivre pour animer nos cœurs et nos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Alors ce texte, je pense qu'il convient bien. On aurait pu en mettre d'autres, Galates 3.13. Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Ça me dépasse. Hein. Afin que la bénédiction d'Abraham, donc la postérité de ceux qui croient, ait son accomplissement pour les païens en Jésus-Christ. C'est beau de voir ce que le Seigneur nous permet de sonder. Le terrain de l'épreuve a attaqué notre Seigneur. Mais Jésus a résisté aux pressions. Il était dit, vous dites Seigneur et Maître, et vous dites bien dans Jean 13. Oui, mais prenez l'exemple que j'ai fait, afin que vous-même vous puissiez dépendre de mon exemple. En fait, la clé, c'est pas de se dire qu'on a à lutter dans ce monde mauvais, méchant, mais on a un exemple pour surmonter le mal et tirer vers le bien, tirer vers le haut. C'est l'exemple de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour une telle victoire, sa victoire et ma victoire. Nous devons demeurer dans sa parole, demeurer dans son amour, demeurer dans son appel, demeurer parce que nous savons qu'en fait, il est détenteur, il a la clé qu'on n'a pas, il a la clé de David, c'est lui qui ouvre et que personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir, c'est merveilleux ce qu'il a dans ses mains et c'est bon de pouvoir lui appartenir. Je sais qu'avec toi, Seigneur, je ne serai jamais déçu. Alors accrochez-vous, frères et sœurs. Accrochons-nous encore, oui, parce qu'il est bon de pouvoir lui appartenir. Amen. Les pressions que Dieu maîtrise, les pressions qui risquent de transformer le bien en mal. Bien entendu, ça ne vous arrivera pas. On prie pour cela, mais que Dieu nous garde et que nous puissions nous garder, frères et sœurs. Amen. Seigneur, merci pour ta présence et ta fidélité. Nous te bénissons ce matin. Tu es merveilleux dans toutes tes œuvres. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es là, à la hauteur de nos défis, à la hauteur de nos pressions, de nos difficultés, de nos incompréhensions. Seigneur, de tout ce que nous ne pouvons pas faire. Et Seigneur, réussir par nous-mêmes. Il est bon de t'avoir. Il est bon de dépendre de toi. Il est bon de voir que même dans la pression, Seigneur, de tout ce qui est acharné, Seigneur, parfois difficile à surmonter, Tu vois dans les cœurs comme dans les couples, les familles, les personnes seules, les enjeux sont de taille, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, comme Joseph et qui parlait à juste cause, qui a parlé comme cela, Seigneur, combien je voudrais me rallier à de telles paroles, des telles paroles de faveur, de bénédiction. Et Seigneur, merci parce que tu es capable de tout, Seigneur. Nous envisageons l'avenir, nous envisageons la vie avec toi. Nous envisageons, Seigneur, de tendre vers le meilleur, de tendre vers celui qui est capable de tout. Seigneur, merci de t'avoir. Merci de t'avoir. Merci de ce que tu m'as rendu aussi sensible pour te choisir, pour te connaître et pour marcher avec toi. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Et nous prions que ta parole garde nos cœurs et nos pensées. Seigneur, il est possible de rebâtir avec toi. Il est possible de vivre ton secours encore. Nous t'en bénissons ce matin, au nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen.